Bonsoir, trois petits tours et puis s'en vont. À la télévision, on traite généralement les affaires quand elles sont d'actualité, puis après on les oublie. Ici même, on n'a d'ailleurs pas toujours échappé à cette règle. Dans cette dernière émission avant les vacances, nous arrêterons donc sur quelques images de notre propre émission et nous ferons le point, ou on essayera de le faire, sur les dossiers qu'elles ont traités.
Bonsoir, six années et puis s'en vont deux des auteurs des Guignols de l'Info sur Canal+, arrêtent. Le troisième continue. Tous les trois sont là ce soir. Bruno Gassiot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous restez ?
Oui.
À vos côtés, deux auteurs qui vous lâchent, on va dire ça comme ça. Benoît Delépine, bonsoir.
Bonsoir.
C'est exactement ça.
Et Jean-François Alain, que je salue également. Si Bruno reste, vous partez. Alors pourquoi et pourquoi faire ?
C'était...
Il y a eu un petit blanc, d'un seul coup.
Moi, c'était prévu depuis longtemps, depuis l'année dernière. Donc je pars pour tenter de faire un long métrage. Voilà, je pense qu'il faut y accorder pas mal de temps et... C'est pour ça qu'il faut être concentré sur son projet. On ne peut pas faire une quotidienne en même temps. Voilà, donc.
Bonne concentration.
Moi, j'ai été licencié suite à l'affaire du sac de Bernadette Chirac.
Vous avez des indemnités ?
Non, très peu, non. Donc, je suis à la recherche actuellement d'un poste. Voilà.
Dans ces cas-là, on lance un appel face à la caméra.
Donc, je suis actuellement à la recherche d'un poste. J'ai 6 ans d'expérience dans l'écriture journalière. Voilà.
Voilà,
c'était Jean-François Alain des Guignols de l'Info.
Voilà. Et vous écrivez donc Arrêt sur image. On va parler des Guignols et notamment des relations entre les vrais et les faux personnages dans un instant. D'abord, quelques arrêts sur la semaine. Daniel, les belles images venues de l'Euro de football en Angleterre.
Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a vu pas mal de footballeurs ces temps-ci à la télévision. C'est vrai, vous avez du mérite parce que vraiment, ils étaient très présents. Et alors, ce qui était très curieux, c'est qu'en général, ils étaient tous pris au même endroit.
Moi, j'ai un petit faible pour l'Angleterre parce qu'ils ont traversé une grosse période où ils ont été attaqués de partout et puis ils ont bien réagi.
Le problème, c'est qu'on sait que dans l'équipe de France, il y a des leaders.
Mais je pense qu'il nous manque le plus important, c'est-à-dire l'expérience au haut niveau.
Quand on voit la presse, quand on voit les gens, on est les favoris, on est les favoris.
Alors, s'ils étaient tous pris au même endroit, c'est pas par hasard, c'est parce que évidemment il fallait que derrière eux on voit le nom des sponsors de l'équipe de France, on appelle ça comme ça, c'est des gens qui donnent de l'argent à l'équipe de France, et on imagine aisément que s'ils étaient tous devant la pancarte avec le nom des sponsors, c'est qu'il y avait un accord, c'est-à-dire que le sponsor avait dit aux chaînes de télévision, si vous voulez faire une interview des joueurs, il faut qu'on voit le nom du sponsor derrière. Alors, on va le revoir, le principe de ce type d'image, c'est qu'elle doit pour le moins passer inaperçue, c'est-à-dire paraître naturel. C'est-à-dire que le nom du sponsor, finalement, le téléspectateur ne doit pas vraiment le voir, mais l'enregistrer, le photographier presque inconsciemment. Et la plupart du temps, ça a marché. Mais ça n'a pas tout le temps marché. Alors, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais il y a eu des fois où l'accord était respecté sans l'être, comme on va le voir là. C'est-à-dire que c'était pas filmé comme ça devait être filmé. Et finalement, le nom du sponsor apparaissait bien, mais il apparaissait aussi que c'était une affiche avec des autocollants qui avait été collée sur un mur de briques.
On a l'impression que c'est les hommes sandwich, le mec, il a le truc dans le dos avec deux bretelles, il se balade partout.
Non, mais c'est ça. De temps en temps, il apparaissait que c'était l'homme sandwich. Et ça, c'est toute la différence entre une image qui doit être spontanée et puis le moment où cette fausse spontanéité apparaît, où les ficelles se révèlent, et ça a été tellement visible que même Patrick Chen au journal de 13h de France 2 a fini par le voir.
Une dernière précision, lorsqu'on voit Yann Lavoie à l'image, on voit derrière un magnifique cadre bucolique. Vous, on vous voit sur un cadre un petit peu moins. On aura compris que le football est envahi par les sponsors, mais je ne pense pas que ce soit très élégant. Marcel, vous n'y êtes pour rien, mais ce n'était pas très élégant. Merci.
Voilà. Je passe les mots, Patrick Chen.
Il va peut-être. Vous pourriez peut-être faire quelque chose avec Patrick Chen, non si...
T'as pas envie de présenter un vrai JT?
Ben non, c'est pas vraiment ce qu'il fait non plus, donc je sais pas.
Ben ça a démarré très fort.
Alors il la promo partout, y compris sur le plateau de Nul par ailleurs.
Oui, puisque finalement ça s'insinue partout, et y compris, voilà, comme disait Pascal, dans une émission que vous connaissez un peu, non ? Ça s'appelle Nul par ailleurs sur Canal+.
Si je la connaissais vraiment.
Grantley Buffalo.
Alors, on ne voit pas forcément très bien, il y a écrit sur la guitare, donc, à la cigale demain. Le groupe se produit demain soir à la cigale.
Ça, c'est malin, ça.
C'est de l'artisanat, en plus.
On n'est jamais assez bien servi par soi-même.
Alors, nous arrivons à vous, messieurs les auteurs des Guignols. C'est vrai qu'il y a comme un chassé-croisé entre les Guignols que vous avez créés et puis les vrais personnages. On a le sentiment que les vrais personnages se nourrissent eux-mêmes de la marionnette et des travers de vos marionnettes que vous avez créées. Alors, on va égrener quelques cas. Et on va commencer par un certain Jean-Luc Delarue et... Comment vous appelez ça ?
L'oreillette.
L'oreillette, voilà. Le Guignol.
Là, qui se voit.
Bien choisir son oreillette, c'est important. Avant, quand j'avais mes émissions, je prenais des fiches. J'étais pas à l'aise, je me sentais mal. Depuis, j'ai découvert l'oreillette. Là, qui se voit.
Voilà, c'est l'oreillette là qui se voit, oreillette marionnette. Eh bien, les vrais maintenant de la rue et aussi Arthur.
Le mois le premier, nous sommes des enfants de l'oreillette.
Ah, c'est vrai.
Et lui, déjà, il en a une. Vous l'avez oublié à la maison.
Allô ?
Allô ? Elle a prêté au Guignol.
Je présente madame.
Madame, c'est l'oreillette.
Donc c'est l'engin de toutes les manipulations. Alors de l'autre côté de ce fil, de ce cordon ombilical, on se trouve Michel Morida. Et qui me dit va plus vite, abruti, va plus vite.
Alors là, on voit donc que Delarue s'est finalement approprié le thème de l'oreillette que vous lui aviez collé. Et ça s'est passé plusieurs fois, comme on va le voir, ce qui donne un peu la mesure de l'impact des marionnettes que vous avez...
Ce qui est marrant dans cette histoire d'oreillette, c'est qu'une oreillette comme ça peut se cacher depuis très longtemps. Quoi. Et lui, ce qui était intéressant, c'est qu'il la montrait, mais c'est pour donner un côté professionnel à l'américaine.
C'est un peu côté, oui, FBI.
Ouais, et alors du coup, vous l'avez montré, et du coup, il s'est senti obligé de jouer avec, parce que ça a été quand même... ressenti comme négatif par lui, on imagine.
Ouais.
Hein? Mais est-ce que ça vous a jamais impressionné l'impact des marionnettes, le fait que vous insistiez sur un trait de personnalité d'un de vos personnages et que immédiatement ça rejaillisse presque sur le personnage réel?
Sur Delarue, c'est moins évident que sur Cantona quand même.
Ah.
Cantona, c'est le plus évident parce qu'il s'en sert quand même pour la publicité, il s'en sert pour vendre, pour gagner de l'argent beaucoup lui.
Merci Bruno, Bruno. Merci beaucoup Bruno.
C'était un enchaînement.
On y arrive à Cantona.
Et vous ne saviez
pas. Et en plus, c'est que le spot de Cantona, je pense que vous faites allusion à ça, a été réalisé par un des réalisateurs des Guignols.
Ah oui.
Voilà. Il y a un moment où ça se recoupe, c'est assez curieux.
Alors, c'est plus que ça se recoupe, là, c'est quand même une exploitation commerciale.
Effectivement, Cantona, on y arrive. Cantona dit Canto, dit Picasso.
L'inspiration, c'est divin. C'est une feuille qui tombe d'un arbre. Et tu peins un enfant qui joue. L'inspiration, c'est un chien qui court. Et tu peins un arbre qui pleure.
Alors effectivement, grâce à ses pinceaux, Cantona ne se contente plus de jouer du pinceau, de jouer à Picasso. Maintenant, il arrondit ses 20 mois.
À propos des mouettes, j'ai ramassé sur le chemin cette petite plume.
Je vais en faire une œuvre d'art avec mon photocopieur, Sharp.
Cette plume, je vais la faxer. Je compose un numéro au hasard et je l'envoie au bout du monde.
Parce que mon art, il est à tout le monde.
Alors là, vous pourriez presque lui demander les droits d'auteur, en fait.
Il se caricature lui-même.
Ouais. Oui, mais alors, non, il se caricature lui-même ou il caricature sa marionnette?
Il joue avec.
Non, mais ça, c'est tout le problème. C'est tout le problème.
C'est l'objet même
de votre émission, c'est que la télévision se nourrit de ce qu'elle produit elle-même, ça se met en boucle, et puis au bout d'un moment, on vit entre nous. Et puis la vraie vie, on n'y va plus. Et lui, sa vraie vie, maintenant, c'est, on a l'impression que sa marionnette et lui sont fondus, et tout le monde croit qu'il est vraiment comme ça. On ne sait plus si c'est nous qui avons commencé ou si c'est lui qui était vraiment comme ça au départ, on ne sait pas.
Mais à part ça, il est vraiment comme ça au départ, tout de même.
Moi,
j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois lors d'un cocktail à Canal, comme ça.
Juste avant France-Israël, pour les amateurs de football.
Oui, juste malheureusement. On a fait un cocktail.
Et moi, j'étais vraiment à l'écart. J'étais à l'écart avec mon petit blouson de cuir et tout, et puis il me regarde de loin comme ça, avec son regard. Il s'avance vers moi. Qui t'y es, toi? Je suis un des auteurs des Guignols. D'abord, un tième de ballon, et tout. Je dis non, j'ai horreur du foot. Il me regarde. Viens sur le terrain, je te ferai briller. Et il repart comme ça. Donc il est quand même à ce niveau-là aussi.
Mais il était content ou pas? Il était content ou pas du sort que vous lui réserviez?
Ah oui, je crois qu'il est très content. Ouais.
C'est une vraie personnalité. Il a une vraie personnalité forte, une personnalité de fêlé. C'est pas seulement un footballeur, c'est un vrai fêlé. Donc il est facilement caricaturable. Mais après qu'il s'en sert, ça prouve qu'il a pas seulement une personnalité comme ça. Ça prouve qu'il réfléchit
aussi,
sur son image.
Aussi. Mais est-ce qu'il y a quand même pas quelque chose de vertigineux à voir que dans la plupart des cas, enfin dans certains cas, les marionnettes sont devenues des personnages plus forts que les originaux? Parce que les marionnettes ont presque cannibalisé les originaux, quoi. On voit, là, dans cet exemple de la publicité...
Il ne faut pas oublier une chose, quand même, puisqu'on est un peu expert en manipulation, c'est que c'est un film de publicité, c'est pas écrit par Cantona, c'est écrit par un concepteur-rédacteur, qui, lui, est fasciné par les Guignols, fait un message écrit un message publicitaire inspiré des Guignols et qui le fait dire à Cantona. C'est-à-dire que Cantona a accepté de dire ça. Ouais. Mais c'est
tu
pas lui
qui... trop con pour trouver ça tout seul.
Non, mais parce que je sais comment se font les choses. Donc c'est pas lui qui tout d'un coup s'est dit, voilà, je veux faire ce texte-là. Quoi.
Est-ce que vous avez un exemple précis et très parlant d'une de vos marionnettes dont l'original aurait vraiment repris les travers, en vrai?
Mais je sais pas, par exemple, toute l'espèce de folie tout à fait Thierry avec Roland et Larquet, c'est à partir du moment où nous, on a commencé à le faire, qu'eux-mêmes s'en sont
se le sont
réapproprié.
C'est pour ça qu'il arrête, il est crevé, il est cuit, il est carbonisé.
Mais c'est jouissif pour vous, c'est...
Moi, je trouve ça un peu, comme vous le disiez, un peu vertigineux, ça me fait un peu peur par moments, oui. Pour Cantona, là, ce que je vois là, ça me fait rire, mais ça me fait un peu peur quand même.
Mais qu'est-ce qui vous fait peur?
Je sais pas. Lui, déjà, mais psychologiquement, je trouve ça très très inquiétant. Il y a une mise
en abîme,
en spirale comme ça.
De s'être laissé enfermer par sa marionnette, en fait.
Le résultat, c'est que nous, on ne sort plus la marionnette quasiment plus. Cantona n'existe plus dans les Guignols parce qu'on se dit le vrai est devenu la marionnette. Donc c'est.
Il est plus loin que nous.
Il va plus loin que la marionnette. Donc la marionnette, en fait, finalement, lui, est devenu une caricature de lui-même et de sa marionnette. Alors ça devrait être l'inverse, logiquement. Donc moi, tout ça me fait un peu peur.
Oui, c'est ça qui est très curieux. C'est qu'effectivement, on a le sentiment qu'il y a eu un certain nombre de cas dans lesquels l'original se cannibalisant la marionnette, vous avez été obligé de renoncer à la marionnette.
Oui, bien sûr. Mais il y a un moment
ce qui était d'ailleurs la bonne solution quand quelqu'un avait envie de voir disparaître sa marionnette, c'était de devenir plus marionnette que la marionnette.
Il y a un moment où ça ne doit pas du tout être évident à vivre. Enfin, quand on est marionnetté et qu'on tombe toute la journée sur des gens qui vous disent « Ah, ok, ou ça va », etc. Bon, il y a un moment, ça devient pénible. Quoi. Donc, il y a plusieurs types de réactions possibles. Il y a le rejet, il y a aussi le fait de complètement obturer l'ensemble.
Non, mais moi, je me souviens, par exemple, c'est un peu ancien, mais vous aviez à un moment la marionnette de Drucker qui venait très souvent. Et puis un jour, Drucker a invité la marionnette sur le plateau de son émission. Et après, on n'a plus jamais vu la marionnette de Drucker. Ou presque plus.
C'est vrai, oui, parce que ça l'a tué d'un seul coup. Ouais.
Et en poussant un peu le trait, en caricaturant Cantona comme ça, comme plutôt un peintre un peu dingo, est-ce que vous avez une petite part dans la non-sélection de Cantona à l'Euro 96? Est-ce que ça peut aller jusqu'au... Est-ce que vous avez un rôle dans la vraie vie?
Par contre, je revendique...
Non, j'espère qu'il faudra demander à M.
Sur les Guignols, je revendique enfin, au nom des Guignols, pas moi personnellement. Ouais. Bien que je sois à la recherche d'un emploi.
Non, mais
je pense que la marionnette des Guignols est arrivée juste avant la médiatisation à outrance de Cantona. Et je pense que la fabrication du personnage, en plus de ce côté exilé en Angleterre, ce qu'on lui fait jouer à travers les pubs Nike, qui est absolument étonnant quand même, ou même les affiches qui sont en Angleterre, qu'on ne voit pas ici malheureusement, mais qui sont vraiment très très drôles, je pense qu'on a précédé tout ça. Et je pense qu'on a fait participé, on a fait partie de cette médiatisation de Cantona, qu'on l'a devancé.
Mais en négatif, ça veut dire que pour Papin, on aurait participé aussi à la chute.
Par contre, j'espère qu'on a...
Mais la non-sélection, non, ça n'a absolument rien à voir. Au contraire, ça aurait même plutôt appuyé, parce que je pense que la marionnette a rendu Cantona assez sympathique, alors que c'était quand même un joueur qui n'était pas très aimé en France. Je sais que vous n'aimez pas trop le football, mais à une époque, il n'était quand même pas aimé du tout en France, puisqu'il est parti en Angleterre dans l'indifférence générale. Je pense que la marionnette aurait plutôt appuyé dans l'autre sens.
J'espère qu'on a quelque chose à voir avec la non-qualification d'Edouard Balladur pour le second tour.
Bon, on va y revenir.
D'abord, un petit mot de Christine O'Krent, Serge Julie et Philippe Alexandre sur France 3. Soir 3, ils sont croqués en train de craquer pour les cahuètes.
Dis donc, Christine, t'aurais pas des cahuètes?
Oh, monsieur, non, ça va pas recommencer.
Allez, Christine, c'est pour faire une image concrète, ta fille. Bah, fais péter les cahuètes, quoi.
Mame Christine.
Bon, c'est la dernière fois, hein.
Ah. Vous avez vu que pour la dernière émission de notre saison, je vous ai offert des cahuètes.
Ça fait partie de nos acquis sensibles.
Vous l'aviez vu celle-là, non? Voilà, encore un élément.
Mais c'est aussi le procédé sympathique. Là, c'est plus sympa. Il n'y a pas d'exploitation commerciale. C'est juste, on rit, ils se moquent de nous avec les cahuètes. Et ben voilà, j'ai apporté des cahuètes. C'est très sympa.
C'est gagné pour vous, là, quand même.
Gagner quoi?
Ah oui, là, c'est...
C'est une reconnaissance.
Ça, c'est juste sympa.
En même temps, c'est assez drôle parce que Philippe Alexandre nous a raconté une fois sur le plateau de Télé Dimanche, il y avait une rumeur qui courait selon laquelle l'émission de Crène Julie Alexandre allait être supprimée. Et donc, nous, à l'antenne, on a dit, on va fermer le bar de Madame Christine, tout ça, et on avait donné le fax de la rédaction de France 3 en disant, n'arrêtez pas, ne fermez pas le bar, etc.
Le vrai fax.
Le vrai numéro de fax. Et il nous a dit qu'il y avait eu énormément de fax envoyés, quoi. Mais vraiment beaucoup. On n'a jamais su si ça avait eu un rapport avec le fait que l'émission soit prolongée et qu'on
continuait. On est un petit peu programmateur à France 3.
Est-ce qu'on peut avoir une marionnette qui apparaisse régulièrement et essayer de la rendre antipathique? Ou est-ce qu'une marionnette est forcément sympathique au bout d'un certain temps ?
C'est pour ça que Le Pen n'apparaît pas dans les guignols. Ouais. On a la marionnette, on ne le sort pas. On estime, nous en tout cas, que ça rend sympathique. Et que pour bien faire une marionnette, il faut s'amuser avec.
Je sais pas si
non, mais nous, de notre côté, par exemple...
Non, mais ça, non, attends,
ça rend pas méchant, ça ne peut pas négatif.
Moi, je suis... Non, je pense pas que ça rende sympathique. Je pense pas que la marionnette d'Edouard Balladur... De toute façon, pour qu'une marionnette soit sympathique, ou bon, il faut, que ça, faut qu'elle soit réussie. Il y a plein de marionnettes qui ne sont pas réussies, qu'on ne sort plus.
Mais prenons...
Non, l'univers. C'est-à-dire, pour moi, une marionnette qui fonctionne, c'est une marionnette qui a son vocabulaire, qui a sa façon d'être manipulée, qui a ses rencontres possibles ou pas possibles. Je pense, par exemple, à Balladur, le couple avec Sarkozy. Et puis après, il faut qu'on puisse imaginer son appartement, etc. Bon, alors, donc, Balladur, c'est une réussite de ce point de vue-là. Chirac aussi. Mais je pense pas que ce qu'on ait fait sur Balladur l'ait rendu sympathique, j'ai pas l'impression.
Il avait décidé de
faire ça. Je pense pas que ça puisse détruire.
C'est-à-dire, je pense que ça fonctionne aussi du point de vue du public à partir du moment où ce que nous, on présuppose de quelqu'un, rencontre ce que les gens supposent aussi de cette personnalité publique. Enfin, c'est un peu compliqué, mais...
Par exemple, Balladur, au départ, n'était pas foncièrement antipathique dans les guignols. Enfin, il faisait partie...
Il y avait
un couple avec Chirac, etc. Mais il est devenu là où c'est... Je pense qu'effectivement, on a tenté d'avoir une influence. Alors, on peut nous dire que c'est pas notre rôle, je viens de le comprendre, mais... En tout cas, il y a eu un moment où l'ensemble des médias plébiscitaient Balladur. C'est-à-dire que c'était absolument n'importe quoi. Il y avait une vague d'unanimisme sur Balladur, des sondages de partout, les plus grandes chaînes de télé, d'information.
Alors ça vous a énervé, nous, ça.
Ça, c'est énervant. Donc, notre rôle, c'est de trouver la petite faille quand même, c'est pas possible.
La première fois qu'on a sorti Balladur avec Chirac, PPD disait à Chirac, alors que Balladur était là, il a l'air plutôt bien, ce gars-là. Il disait, le gars qu'elle a, là. Non. Et il a l'air sympa, il travaille, il fait son boulot. Et on estimait que lui, il bossait, il était sympa, il faisait son travail. Quoi. Et Chirac, lui, essayait absolument de se glisser dans son gouvernement, influer sur ses décisions. Et en fait, c'est petit à petit qu'on s'est rendu compte, justement, qu'il y avait cette vague médiatique
surtout,
autour de lui.
On se rendait compte, en parallèle, qu'il tentait, lui aussi, de manipuler, d'une certaine façon. Enfin, c'est devenu évident
On a déjà largement commencé à aborder le problème Chirac. Et c'est vrai que la marionnette...
Qu'est-ce qu'on fait, on le fait réélire ou pas?
Alors, avant de débattre de cette grave question, je vous propose de revoir...
Moi, je propose qu'on le fasse réélire en 2002.
La correspondance entre Jacques Chirac et sa marionnette, c'est une histoire de pomme.
Mais mon Dieu, on va pas rentrer dans l'an 2000 à reculons. On va tous manger des pommes. Ouais. Toutes les pommes, de la Star King, de la Golden, de la Granny, manger plein de pommes.
Ouais. Ça va pas, monsieur Chirac?
Bah quoi? Eh oh, j'ai trouvé un effet pommier, ça marche, j'y vais plein pot. Manger des pommes. Ouais. Jusqu'au trognon.
Ouais. Dans la région, on fait... des pommes superbes, pas la seule.
Et c'est reparti pour la Golden.
La région de Brive. On trouve de la Golden, on trouve de la Rainette de qualité, on trouve de la Canada. Ah, vous voyez quand même, j'en suis à trois.
Oui. Quelle est la couleur de la pomme Canada?
Je crois qu'elle est verte.
Bon, on va vérifier.
Oui. Oui. Je ne suis pas absolument sûr.
Oui, moi non plus.
Dites-moi, quelqu'un qui est né...
Je veux dire que j'aime les pommes en général.
Oui.
Alors là, il est très sympathique. Pas seulement la marionnette, mais lui. Et là, dans l'extrait qu'on vient de voir à la Marche du siècle, il est très sympathique. Et alors, c'est vous.
Ben, oui, bien sûr. Mais attendez, il faut quand même revenir à la base du truc.
À la base.
La base du truc.
Je mérite maintenant.
Ouais. La base du truc, c'est... Manger des pommes,
Je trouve, par exemple, c'est moi qui ai trouvé ce slogan, manger des pommes. Donc on me reproche... Enfin, à la base du truc, il y avait un vide sidéral dans la campagne, et tout d'un coup, on dit, voilà, le slogan de Jacques Chirac, c'est « manger des pommes ».
Vous le trouvez comment, ce slogan-là?
Parce que je repère le logo, le pommier, machin...
Le livre...
Finalement, au total, le Chirac sympathique de la Marche du siècle, finalement, c'est un peu la marionnette qui avait été sur l'original, non?
C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, le truc « manger des pommes », c'est absurde, c'est ridicule. C'est-à-dire que si, dans la presse américaine, on dit « un président a été élu avec ce slogan « manger des pommes », quand on revient à la situation de base, c'était très critique sur Chirac, quoi. Sauf que lui, il a bien joué son coup parce que justement, il a fait preuve de ce qu'on appelle l'humour, c'est-à-dire d'une distance par rapport à lui-même, et il a pris ça avec humour. Et je pense que n'importe quel homme politique, que ça soit aujourd'hui Jospin avec Yo-Yo, etc., tout d'un coup se dit voilà, il se met à imiter Yo-Yo face à un journaliste en disant effectivement, j'ai une décapotable, mais il ne faudrait pas. Bah, c'est tout, il se mettrait le public dans
Lionel,
la poche.
Tu sais ce qu'il te reste à faire, Lionel.
Non, mais c'est une des.
Ça plein pot, Lionel.
C'est une des façons de. C'est une des façons de prendre la vie du bon côté. Il a réussi à le faire. Je ne sais pas s'il a été conseillé par sa fille ou qui que ce soit. En tout cas, il l'a fait. Et puis, c'est tout. Mais c'est la base du truc. On n'a pas cherché à le rendre sympathique ou populaire avec un pommier. On a cherché à le ridiculiser avec un pommier.
Vous avez la tendresse pour.
Vous avez tous les trois acteurs là-dessus. À la base, vous avez cherché à le ridiculiser.
Ah, bah oui, mais attendez, mais
c'est vrai qu'il y a ce qui en même temps donne la mesure de la fragilité finalement.
Mais ce qui dit est vrai, c'est surtout le vide sidéral. Nous, on s'est glissé dans un vide. La campagne, il n'y avait rien. Il y avait Balladur qui était désigné président et non pas élu. Tout le monde était d'accord là-dessus. Et lui, il arrive. Et tout d'un coup, il y a ce pommier.
Ce petit pommier. Ce pommier vient du fait que l'éditeur avait un trou sur la couverture. Donc il a mis un pommier. Et après, Chirac s'est vertué à trouver toutes les raisons du monde. C'était les fruits de la croissance. Ça ne voulait rien dire. Donc c'est ce qu'a fait
Benoît. Benoît a repéré ce truc-là. Et moi, j'y croyais pas du tout. Je dis, comment tu veux qu'on parle de pomme? Ça veut rien dire. Il dit, mais oui, mais c'est parce que ça veut rien dire qu'on va en parler. Et en parlant comme ça, c'est devenu quelque chose après. Et sur Cavada, c'est Cavada qui lui en parle des pommes. C'est pas lui qui vient parler des pommes tout seul. C'est Cavada qui lui parle des pommes.
L'émission embraye très bien,
mais c'est le journaliste qui
était très complaisant,
très attentif.
Certains hommes politiques auraient pris la mouche, quoi. C'est pas. Je sais pas, en tout cas, il était dans une phase.
Alors, et rétrospectivement, finalement, vous avez été dépassé par votre création, hein, comme tous les créateurs. C'est un peu ça qui s'est passé.
Président de la République.
Franchement, je pense que quoi qu'il arrive, les choses se seraient passées de la façon dont elles se sont passées. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde vraiment en toute objectivité ce qui s'est passé, Jacques Chirac fait 22% au premier tour.
C'est son score.
Ce qui, pour un futur président, n'est quand même pas terrible. Balladur était derrière à 19, donc toute cette histoire est née vraiment de leur rivalité à tous les deux, et pas du tout de Guignol, pas Guignol, quoi. Et Jospin, je pense qu'il n'était pas encore prêt.
En plus, il y a deux sondages très intéressants qui sont sortis pratiquement le même jour. Et la question était, est-ce que les Guignols ont une influence sur le vote? 70% des gens disaient oui. Sur votre vote, 2% des gens disaient oui. C'est-à-dire que tout le monde pense que les autres sont assez cons pour se laisser influencer par une marionnette, mais nous, on n'est jamais assez cons pour se laisser influencer.
Là, vous croyez au sondage, là, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Oui. je crois au sondage, oui. Pourquoi?
Il y a eu quelques sketchs critiques des Guignols sur les sondages, non?
Ah, bien sûr, oui.
Mais là, ce qu'il vient de faire, c'est une critique des sondages. Il ne dit pas je crois au sondage, il dit il faut savoir lire les questions des sondages.
C'est-à-dire que oui, c'est ça, oui. En fait, tu crois que j'ai fait ça, là?
Ben oui, c'est-à-dire que tu dis aucun sondeur n'a mis en relation les deux choses.
Ah, voilà, c'est ça, d'accord. Bon, alors Chirac et l'élection présidentielle, c'était l'an dernier. Cette année, là, ces toutes dernières semaines, vous êtes intéressé de très près, mais alors vraiment de très près, à l'affaire El Kabbach de la rue, les contrats, les patates.
Les patates, vas-y, les patates.
Appel à tous les contribuables, Des animateurs du service public sont recherchés pour vol de patates.
Sans patates, il a dit sans patates, waouh.
Le principe, il est simple. Ton boulot, c'est de faire des émissions de télé. Tout le monde se fout de savoir combien elle coûte.
Hey, j'y vais.
Ah, quoi encore? Qu'est-ce que tu veux?
Ben, je voudrais 20 patates. C'est pour aller à la piscine.
Personne ne pose de questions sur rien. Tu prends le fric. Tout le monde se sert de toute façon. Le plus drôle, c'est que c'est légal.
Envoyez vos patates à France Télévisions. Au moins, avec nous, vous savez où va l'argent.
Ouais, à deux.
Les trois frères, le service public est mort et ce sont eux les héritiers.
On est les rois.
On est animateur télé.
On est le service public.
Pourvu que le parrain ne change pas.
Là, c'est pareil, vous n'avez pas contribué une seule seconde à la chute d'El Kabbach.
Maintenant, on va voir, parce que alors, si on pose la question, c'est parce que ça a été dit. El Kabbach lui-même a crié au complot. On va voir tout ça, on va retracer le Jean-Pierre El Kabbach.
Ne manipulez pas l'image.
Encore,
vous aussi.
On fait que ça à la télé, malheureusement, même avec les meilleures intentions du monde. Jean-Pierre El Kabbach, quand il était encore président de France Télévisions, a crié au complot. Il est allé voir Alain Griotrey et une équipe de votre chaîne de Télédimanche est allée voir Alain Griotrey et lui a demandé à qui Jean-Pierre El Kabbach faisait allusion quand il criait au complot. Et voilà la réponse d'Alain Griotrey.
Alors, après avoir un peu parlé, on a évidemment cité votre chaîne, c'est-à-dire Canal+. Et dans Canal+, je lui ai observé que je n'avais jamais vu un grand débat sur le sujet. Et on est arrivé à la conclusion très vite que c'était les Guignols.
Voilà. Donc, apparemment, d'après Alain Griotrey, il l'a dit. que c'était vous qui aviez
fait un complot,
qui avait fait un complot contre Jean-Pierre Littabal.
Ben non, on va s'attaquer maintenant.
Malheureusement, non.
Non, malheureusement, les Guignols sont jamais télé. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de choses comme ça sur les Guignols, comme quoi il y avait une volonté d'entreprise de la part de Canal+ de nous faire faire des choses, de nous faire attaquer TF1, faire attaquer France 2, mais c'est la réalité est tellement plus bête que ça, c'est-à-dire que nous sommes trois dans un petit bureau à travailler et on
rit. Le problème, c'est que ça a touché à quelque chose, c'est-à-dire que moi, enfin, quand je revois ces sketchs-là, je me dis, bon, en même temps, c'est drôle, mais en même temps, ça peut paraître être de l'acharnement sur deux, trois personnes comme ça. Le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés, pour nous en tout cas, le symbole de quelque chose qu'on juge totalement immoral, qui est jouer avec l'argent public, quoi. Et c'est vrai qu'on est allé très loin. Et moi, j'aurais préféré, dénoncer...
C'est pas tellement très loin, c'est surtout très longtemps, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs semaines pendant lesquelles c'était tous les soirs, est-ce que vous n'avez pas cédé quand même là à quelque chose qui est la tentation de faire une campagne en revenant comme ça tous les soirs.
On s'est dit que le problème était assez ardu et assez compliqué à comprendre pour les gens qui ne travaillaient pas à la télévision. Donc on s'est dit qu'il fallait un peu enfoncer le clou.
C'est la pédagogie.
Non, mais c'est vrai, sincèrement, c'est un peu vrai, parce que c'est quand même quelque chose qui...
Il y avait une vraie volonté d'expliquer que donner un énorme salaire, enfin en tout cas,
là,
ça c'est mon avis.
Vous expliquez pas, vous martelez, c'est
oui, mais qu'est-ce qu'on dit au bout du compte? C'est que donner un énorme salaire à un animateur télé, ça regarde une chaîne de télé, elle fait ce qu'elle veut, elle peut donner 200 briques par mois à quelqu'un, c'est pas un souci, si on estime que ce type-là vaut ça.
Sauf que là, ils sont voleurs,
ce qui est souci. Oui, ce qui est souci, tout d'un coup, c'est que ces gens-là ont des sociétés de production et se font des salaires complémentaires qui sont bien supérieurs à leur salaire sur des sociétés de production qui, elles, font des bénéfices avec des chiffres d'affaires garantis. Mais ça, c'est très difficile à expliquer. Donc, on enfonce le clou, on dit « ils volent les patates ». Mais
on retire la schématisation.
Moi, à part ça, je trouve ça totalement injuste. Je suis bien d'accord avec vous, je trouve ça totalement injuste.
Qu'est-ce que vous trouvez injuste ?
Je trouve ça injuste qu'on s'acharne sur des gens comme ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que je préférerais 100 fois, moi... taper à fond sur le Rafale, par exemple le programme Rafale qui coûte X milliers de francs par Français chaque année, dont personne ne parle et qui est dans un coin de l'Assemblée. On ne peut pas parce qu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personnalité qui représente ça, de personnalité humaine.
Et pourquoi vous n'avez pas fait une marionnette du Rafale?
Il y a une excellente émission qui s'appelle Combien ça coûte sur TF1 qui parle que
de... D'une certaine façon, c'est tombé sur eux, quoi, parce qu'ils ont représenté une façon de mal dépenser l'argent public.
Ils ont payé pour les autres, alors.
Ouais,
c'est terrible, ça. Vous voulez dire que finalement, les vraies cibles se sont passées à travers les gouttes.
Les vraies cibles passent, une partie des vraies cibles passent à travers les doutes, et nous, on ne peut dénoncer qu'en fonction de notre outil, mais il faudrait que les journalistes ou d'autres types de médias le fassent pour d'autres choses, quoi.
Mais ils le font, mais personne ne lit les journaux, c'est ça.
Mais c'est le souci de dénoncer,
Ça fait partie de notre boulot de Guignol, c'est de dénoncer certaines failles du système. Hein. C'est
pour ça qu'ils s'en vont.
Avec mauvaise foi aussi.
Alors vous partez parce que vous n'avez pas pu faire la marionnette du Rafale.
Non, on part parce que c'est très crevant, parce qu'il faut vraiment essayer de connaître les sujets du début à la fin et de taper sans... Enfin, il y a beaucoup de contraintes, etc.
Vous disiez tout à l'heure que Canal+, votre chaîne, ne vous a jamais demandé de taper sur les chaînes concurrentes, par exemple sur TF1.
Non.
Mais ça a parfois été un peu le contraire, non? Je crois me souvenir qu'il y a quelques années, vous montriez la tour de TF1 sous les traits d'une boîte que vous appeliez la boîte à cons, et qu'on vous a peut-être demandé de mettre un tout petit peu la pédale douce sur ce...
Si vous saviez d'où ça vient, cette histoire, on était tous les deux dans notre voiture, on faisait les petites boîtes à cons des animateurs de TF1.
Vous savez, comme ces boîtes à vaches, là.
Voilà, les boîtes à vaches,
on se souvient.
Et on était tous les deux dans sa voiture, et tout d'un coup, on passe devant le nouvel immeuble de TF1, et en même temps, on a explosé de rire, on dit, mais c'est la boîte à cons, quoi.
Pourquoi elle a disparu, la boîte à cons?
Ah, ça, effectivement, on a eu...
On nous a demandé de mettre un peu, effectivement, la pédale douce.
Qui on?
Je sais plus Rousselet, directement, je crois que c'est André Rousselet.
C'est-à-dire qu'il y avait un problème, c'est qu'en se moquant de l'immeuble même, on touchait à l'image même de ce que représente Bouygues, c'est-à-dire des immeubles, et c'est un immeuble qu'ils font visiter à des gens pour leur dire regardez comme c'est beau, et en leur disant c'est une boîte à cons, ils perdaient vraiment beaucoup de fric. Ils se foutent qu'on se foute d'eux en termes de télé, mais en termes de Bouygues, ils aiment pas du tout. Les logos Bouygues, ils nous emmerdent à chaque fois.
Je crois que les gens de TF1 commençaient à dire entre eux, bon là, faut que j'y aille, j'ai rendez-vous à la boîte à cons.
Ça commençait vraiment un peu.
Faut que je rentre à la boîte à cons.
T'avais gagné la citadelle.
Voilà,
il y a d'autres exemples d'intervention?
En 6 ans.
Oui, il y en a eu quelques-uns. C'est-à-dire, là, on nous a demandé clairement de mettre la pédale douce un petit peu. Il y a d'autres moments où on nous a fait part du mécontentement de la personne concernée, c'est-à-dire de quelqu'un qui avait été caricaturé d'une manière qui l'avait un peu blessé, mais on ne nous a pas demandé d'arrêter.
Alors venons-en à l'affaire la plus récente, ouais. L'affaire Bernadette Chirac.
L'affaire Bernadette Chirac.
Il y en a une autre juste avant, il y a l'affaire de la carotte dans le cul de M. Moujotte.
Oui, mais enfin, là, on était toujours sur TF1, mais la plus...
Carotte qu'il n'a pas eu dans le...
Il n'a pas eu dans le cul.
Il n'a pas eu, c'était resté uniquement le verbal.
L'outrage. On a travaillé beaucoup, c'est-à-dire qu'on doit se dire, tiens, il a eu une carotte dans le cul, en fait, quand on relit le texte, il n'en a pas du tout.
Ça, c'est la relativisation de la... Non, mais l'affaire Bernadette Chirac, donc, que vous avez montré dans une position, disons, obscène.
Non, elle cherchait ses clés dans son sac.
Elle cherchait ses clés dans son sac.
Voilà, ma petite fille qui a 3 ans me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Pourquoi elle pleure? Je dis, parce qu'elle trouve pas ses clés dans son sac.
Bon,
ça paraît une bonne explication.
C'est une scène qui a ému beaucoup de monde. Vous avez dit tout à l'heure au début de l'émission que c'était même la cause de votre licenciement. Il est temps de préciser pour nos téléspectateurs.
Le responsable, c'est Pierre Lescure.
Qui s'agissait d'humour de votre part.
Oui, bien sûr.
Il faut le préciser. Mais alors, cela dit, là, on
vous a fait... Peut-être rappeler pourquoi il s'agissait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'ailleurs.
Vous pouvez
la décrire un petit peu?
Vous auriez dû.
Vous l'expliquez?
On a des avis un peu contraires.
L'idée au départ du sketch, c'est... Chirac part en voyage officiel, Bernadette Chirac se retrouve seule, se dirige vers la vidéothèque, prend une cassette qui est cachée derrière des cassettes du PSG ou je ne sais quoi.
Sur la cassette, on entend qu'il y a quelque chose de grave dedans.
Il y a écrit X sur la cassette, elle s'approche du magnétoscope, enfin elle ferme les rideaux avant, elle se met bien dans son fauteuil, on sent qu'elle va regarder quelque chose qu'elle aime bien. Et c'est un téléachat où on présente le sac à main qu'elle a acheté. Ouais. Et donc ça l'a fait un peu glousser de plaisir. Mmh. Voilà. D'accord. Et elle finit par se caresser le fermoir du sac à main.
Est-ce que là, vous avez eu conscience d'être allé trop loin?
Pas du tout.
Personnellement, absolument pas, non.
Oui.
Il n'y a que moi qui ai eu le sentiment, parce que j'ai trouvé... D'abord, il faut expliquer aussi comment ça s'est passé. Les Guignols, c'est une éternelle surveillance entre nous trois, voilà. Plus la direction artistique. Et ce jour-là, vous n'êtes pas sans ignorer, puisque vous travaillez à la télévision, que je travaille aussi un petit peu à nulle part ailleurs, je suis remonté plus tôt et j'étais pas là. Ce sketch, on avait décidé, quand on l'a vu en projection, 6 mois avant, il datait de 6 mois, qu'on le passerait jamais, parce que c'était le réalisateur qui lui-même avait fait, en nous disant, il ne fonctionne pas. C'est un sketch qui fonctionne pas, voilà, regardez, elle regarde le sac à main, on n'arrive pas à donner le sentiment d'une nana contente qui regarde un sac à main. Donc je suis allé plus loin, voilà la version hard. Et effectivement, elle se caressait le sac à main, et on a explosé de rire, on a dit ça ne passera jamais. Et on est arrivé ce jour-là, moi j'étais pas là, ils ont décidé de crypter l'image en disant ça passera avec l'image cryptée. Moi je suis redescendu.
Qui a décidé? Ah, eux deux là.
Jean-François et Benoît.
Abandonner eux-mêmes.
Et moi je suis redescendu. Non mais c'est pas abandonné, simplement ce coup-là, c'est moi qui surveillais. C'est moi qui étais surgé ce jour-là. Ce jour-là je devais être surgé. Et je suis arrivé, j'ai dit non, vous êtes fous, on passe pas ce sketch-là. Si, on a trouvé, on coupe très tôt et il y a un cryptage, on voit rien, on n'entend pas le son, tout va bien. Et j'ai dit ok, oui, d'accord.
Ça a démultiplié l'effet.
Ça a démultiplié l'effet. Le fait de crypter avec l'ancien cryptage de Canal en plus, c'était vraiment dire c'est un film porno. Et j'ai trouvé ça en le regardant, moi j'ai hurlé en regardant la télé. Je l'ai regardé, j'étais pas avec eux. Je fais non, c'est juste indécent, c'est juste pas bien. Et je leur ai dit ça. Ils m'ont dit non, pas du tout, on s'en fout.
C'est pas bien parce que c'est la femme du président de la République.
Non, pas bien parce que c'est une femme. Je trouve que l'image d'une femme qui n'a rien demandé à personne et qu'on fait se caresser devant une télévision, c'est pas bien. C'est juste pas bien. C'est indécent. C'est même pas moral, tout ça. Une femme qui se caresse, ça ne gêne pas. C'est simplement que là, je trouvais que c'était une marionnette. On allait trop. Enfin, je sais pas, c'était caca, quoi. C'était. Bah, ça faisait. Ah,
vous deux pas d'accord, alors?
Non, parce que moi, bah ça nous, me. Moi, je suis un sale gamin.
C'était le fait d'aller trop loin, justement. C'est ça qui nous faisait rire, et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup fait rire.
Et en plus, moi, je peux dire honnêtement.
À ma décharge, je peux dire que ça m'a fait vraiment marrer.
Honnêtement, moi, j'ai toutes les réactions que j'ai pu avoir, et je parle pas de réactions dans le milieu dans lequel nous évoluons, la télévision, mais j'ai eu quasiment aucune réaction négative. Et j'ai cru, ça va être très délicat à dire ce que je veux dire maintenant, j'ai cru comprendre l'impact de ce sketch dans la presse, et notamment je pense à l'édito de, comment s'appelle-t-il, Philippe Meyer dans Le Point, etc., pas mal d'éditos. J'ai cru comprendre ça par rapport à certains articles que j'ai vus sur la vie privée de Jacques Chirac, voilà. Et j'ai cru comprendre l'impact du sketch, je le comprends, il y a environ une semaine que je comprends l'impact du sketch.
Tout ça est dans le non-dit, quand même.
Ouais. C'est dans le non-dit, mais je ne peux pas dire plus que ça.
Non, voilà. Si vous voulez bien, il faut passer à décryptage. Si vous voulez bien comprendre, c'est décryptage.
Voilà. Mais c'est-à-dire, j'ai vu ça en lisant un article américain qui n'est pas sorti en France. Et puis, j'ai peut-être compris qu'effectivement, il y avait une sorte de protection de Mme Chirac qui m'avait un peu échappé. Donc, dans cette mesure-là, je peux un peu regretter le sketch.
Vous avez vu présenter des excuses, c'est ça?
Non, l'histoire, il n'y a pas eu d'excuses du tout. C'est simplement que Lescure nous a dit, vous avez fait les cons, c'est pas bien, c'est nul. Et moi, j'ai dit, j'ai juste envie de, moi, personnellement, Bruno Gassiot, écrire à Madame Chirac et lui dire, on se rend compte qu'on a un poil dépassé. Alors, voilà, on voulait juste vous signifier qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait ça. Il n'y a pas d'excuse dedans, on n'a pas à s'excuser. Simplement, c'était lui dire, on s'est rendu compte, quoi. On l'a vu. Si vous avez été choqué, on l'a vu. Nous aussi, on a été un peu...
Si je vais parler
donc, ils ont
cossé... Il y a aussi une chose là-dedans, c'est que moi, ce qui m'a fait peur, après, la réaction par rapport à ce sketch, les réactions négatives un peu outrées partout, c'est que je me suis dit, tiens, ça y est, les Guignols sont devenus politiquement corrects, parce qu'on peut plus... Enfin, je vais vous expliquer. Il y a, au début des Guignols, avec Jean-François, il y a donc 6 ans, pas loin, ou 5 ans, on avait fait un sketch où Raymond Barre tournait dans des films porno en Allemagne, mais des...
C'est un homme politique.
C'est des univers qu'on crée aussi, c'est pas grave.
Parce qu'on s'était dit que devient Raymond Barre, et en riant, on dit, tiens, il fait des films porno en Allemagne. Et donc, on a fait ça, voilà.
Vous restez avec nous, s'il vous plaît, messieurs les auteurs des Guignols. Nous arrivons à l'autre dossier, à l'autre partie d'Arrêt sur image. Ça s'appelle Retour sur image. Ces images que nous avons traitées, scrutées, une saison durant, et qui ont vécu leur propre vie après, Daniel. On commence par la preuve, par l'image.
Oui, alors on se souvient de cette émission Mornay de France 2, dont le premier et dernier numéro a été diffusé à la rentrée de septembre de l'an dernier. C'était une émission qui était fondée sur le principe de la caméra cachée et qui, avec des reportages en caméra cachée ou miniature, visait à éclairer la réalité. Et le premier et dernier numéro nous expliquait que les banlieues étaient un vaste champ de trafic d'armes. On revoit.
La preuve par l'image s'est intéressée aux revendeurs d'armes. L'un de nos reporters, équipé d'une micro-caméra, est descendu dans des caves de banlieues parisiennes, des cités, et s'est fait passer pour un acheteur potentiel d'armes.
Des caves, nous en avons visité, équipées de caméras miniatures. Contact, introduction, nous nous sommes fait passer pour des clients. Les vendeurs n'étaient pas des trafiquants professionnels, loin de là, mais des jeunes de la cité. Moyenne d'âge, 17 ans. Des armes de poing, on s'y attendait, mais beaucoup plus surprenant, des armes de guerre.
Ça, c'est un beau joujou. C'est ce qui est en Yougoslavie.
Ça, c'est quoi?
Kalachnikov. Il y a le chargeur qui se trouve là. Tu vois? Tu mets les balles là-dedans. Tu l'enclenches. Comme ça.
Peu de temps après, Arrêt sur image s'intéressait donc à la preuve sur l'image, par l'image.
Et alors depuis, on est complètement dans le bleu. Les contre-enquêtes se succèdent de tous les côtés, tout le monde a mené sa contre-enquête, la chaîne, les producteurs. Nous-mêmes, à Arrêt sur image, puisque c'est notre rôle, nous menons aussi notre contre-enquête et nous tiendrons nos téléspectateurs informés aussitôt que nous aurons des résultats. Mais il faut bien dire que pour l'instant, par exemple, les témoins produits par Martine Aubry, nous avons beaucoup de mal nous-mêmes à les retrouver.
Sur l'émission elle-même, moi j'ai rencontré le journaliste qui a fait le reportage, il s'appelle Monsieur Aziz Zemmoury. Je lui fais confiance a priori, je l'ai interpellé après, en lui demandant s'il était effectivement complice d'une sorte de bidonnage de l'émission, soit on a acheté, etc. Il me jure qu'il n'a en aucune manière monté un tel dispositif.
Pas d'accord avec Martine Aubry, alors vous n'êtes pas d'accord avec Martine Aubry?
Écoutez, moi je fais confiance au journaliste, si on m'apporte...
Plus qu'à Martine Aubry.
Oui.
Alors effectivement, Colomb-Schneck, oui. Martine Aubry était en désaccord avec Julien Drey, puisque elle prétendait que ce reportage était complètement bidon. A-t-on enfin des certitudes dans cette affaire?
Un peu plus, mais pas grâce à moi, pas grâce à mon enquête, mais grâce au...
C'est déjà un bon point.
Grâce au procès en diffamation, que l'auteur du reportage a fait contre Martine Aubry, qui disait que le reportage était bidonné.
Alors qu'a-t-on appris de certains?
Quelques petits trucs. Par exemple, que le reportage n'a pas été filmé en caméra cachée, mais en caméra ordinaire.
Deuxièmement, donc ça, c'est contraire au principe de l'émission, déjà.
Déjà. Deuxièmement, que le journaliste n'a pas pu se faire passer pour un acheteur d'armes, parce qu'en général, un acheteur ne vient pas avec une caméra avec lui.
Ah ouais, ils n'ont pas toujours une caméra sur l'épaule quand
ils achètent. Très souvent. Enfin, je connais mal le domaine, mais en général, je crois pas. Donc, on peut dire que le reportage est bidonné, dans ce cas-là. Et en plus, je crois que les armes, c'était pas des armes de guerre, c'était en fait, un expert a dit que c'était des armes à poing, à fusil, à pompe.
D'accord.
Donc, le reportage était bidonné. Donc. Le point sur lequel j'avais raison à l'époque, c'est que je disais que toute la mise en scène autour, on disait que des comédiens avaient été payés pour jouer dans le reportage. Et les témoignages étaient tellement contradictoires qu'il n'y avait pas vraiment de preuves pour le dire. Donc ça, le tribunal a bien voulu dire qu'effectivement, c'était pas prouvé.
Sur le fait qu'ils soient payés, c'est uniquement
sur le fait qu'ils soient payés. Mais comme tout le monde a fait appel, on aura la suite en septembre.
Voilà un bon point quand même pour Colomb-Schneck.
Ça va bien.
C'est un bon exemple,
et,
ça.
Et on y reviendra en septembre. Mmh. Alors, après France 2...
J'en ai rien compris. Alors, c'était bidonné ou pas?
Le tribunal a dit oui.
Bidonné dans le sens.
Si le tribunal l'a dit, moi, je sais. Il faut que le tribunal le dise.
Oui, mais c'est pas définitif qu'ils sont fait appel.
Qu'est-ce qu'il y a de effrayant?
Vous imaginez l'image que ça donne de la banlieue et de quelle manière ça participe à une espèce de psychose de la banlieue.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça vous étonne. Il y a un truc qui m'énerve, mais je trouve ça honteux, quoi. C'est... Il n'y a pas d'erratum des chaînes. Enfin, quand il y a un bidonnage comme ça, dans un journal, il y aura... Mais non, en plus, il n'y aurait pas d'erratum dans les journaux non plus.
Cela dit, à leur décharge, il n'y a pas eu de deuxième numéro. Donc, ils n'ont
pas eu un erratum global.
Mais ce qui est aberrant, c'est qu'effectivement, c'est ce que vous soulignez, c'est que ça passe comme ça. Quoi. C'est ça qui est aberrant.
La presse en a largement rendu compte, quand même.
Vous regardez, je suppose, le journal de Moustique aussi.
Bien sûr.
Il y a des choses là-dedans qui pourraient aller dans n'importe quel journal télévisé. Leur reportage, tout ça, c'est... Le bidonnage, il est simple, c'est tellement facile. On a quoi? On a une Kalachnikov en gros plan, on ne sait pas si c'est une réplique, on ne peut pas savoir. On a un type habillé en noir, il n'a rien qui l'identifie, pas une bague, rien, ça peut
et
être
nous,
n'importe
on sait
quoi.
En faisant le JT de Moustique, on sait que pour être crédible, il faut qu'il y ait du matériel de mauvaise qualité, que ça soit bougé tout le temps, que c'est très simple.
Que ça fasse comme la
preuve. C'est une
très bonne caméra.
Autre cas de figure, cette fois sur TF1, à la rentrée, l'émission Témoin numéro 1, présentée par Jacques Pradel, revenait sur la profanation du cimetière juif de Carpentras et lançait au cours de l'émission un appel à témoins. Et au cours de cette émission, le procureur de Carpentras, en personne, téléphonait à témoin numéro 1 et donnait des informations exclusives et sensationnelles.
Je voudrais faire part, Jacques, à chaud d'une réaction. J'ai eu le procureur de la République de Carpentras, donc M. Michel Tissot. On a parlé au téléphone de cette affaire. Le procureur nous dit, il veut préciser ce soir qu'on ne baisse pas les bras. La justice ne baisse pas les bras, mais surtout, ce qui est important, il nous dit, il n'y aura pas de non-lieu. Et ça confirme tout à fait le témoignage que nous venons de diffuser. Le procureur, M. Tissot, nous dit, nous allons au contraire et ça c'est une vraie information, faire des mises en examen dans les semaines qui viennent. J'ai demandé au procureur, est-ce que nous pouvons en faire état? Oui, vous pouvez en faire état. Nous allons donc vers des mises en examen dans les semaines qui viennent. Et là, c'est nous qui parlons, plus le procureur Tissot. Apparemment, on irait vers une piste locale et non pas vers une piste politique.
Voilà le même Patrick Menet de témoin numéro 1, un petit peu plus tard sur le plateau d'Arrêt sur image.
Vous dites, le procureur nous a dit, il va y avoir des mises en examen.
Je le dis parce qu'il
nous
l'a dit, bien sûr.
On imagine bien l'émotion que ça doit soulever dans la ville. Enfin,
ce qui est important, c'est que je vous redonne l'ensemble du contexte. C'est-à-dire que notre enquête prouve qu'en fait, on nous a priori menti au début de cette affaire. Et puis, grâce à notre enquête, on relance l'affaire et on arrive peut-être vers la vérité.
Colombe, voulez-vous un nouveau point? Que sait-on?
Ce qu'on sait, c'est que quand Patrick Menet dit ça... Il sait une chose. Enfin, le procureur sait une chose.
Quand il appelle témoin numéro 1.
Appelle témoin. C'est sur la base d'un témoignage entendu par la police, qui n'a même pas encore été entendu par le juge d'instruction. Et quand le juge d'instruction va l'entendre un mois après, le témoignage va se défaire de lui-même, quoi, tellement il est ridicule.
Il ne tient pas.
Il ne tient pas.
Ce qui est important dans l'affaire, c'est que le procureur regarde témoin numéro 1. C'est ça qui est un peu inquiétant.
Il avait dû être prévenu.
Et qu'il y a un effet d'annonce. Ah, témoin numéro 1.
Mais moi, j'avais vu l'émission.
Oui, alors, cela dit, il faut dire c'est qu'il n'y a toujours pas eu de nouvelle mise en examen dans cette affaire. À la suite des cafouillages de la justice, le dossier a été dépaysé. Il est maintenant à Marseille, il n'est plus à Carpentras. Et à la suite du bruit fait autour de ces pseudo-révélations, et notamment à témoin numéro 1, Jean-Marie Le Pen et le Front National se sont sentis autorisés à demander des réparations, puisque ils ont dit, on a accusé au départ l'extrême droite de la profanation du cimetière juif de Carpentras, mais maintenant, la piste d'extrême droite est abandonnée. On revoit Jean-Marie Le Pen demandant des réparations.
La machination de Carpentras aurait pu être mortelle sans le sang-froid du mouvement, de ses dirigeants et de ses militants.
Je crois que le président Jacques Chirac, au nom finalement de tous les manifestants de 1990, s'honorerait en disant qu'on a commis une immense injustice à l'égard du Front National en accusant des innocents. Voilà, tout simplement, quoi.
Alors là aussi, Colombe, entre piste locale et piste d'extrême droite, donc au niveau national, où en est-on?
Rien.
On n'a pas avancé.
On n'a pas de certitude.
Non, c'est-à-dire qu'il n'y a ni nouvelle mise en examen, ni piste, nouvelle piste, ni locale, ni politique. Donc c'était vraiment un coup médiatique pour rien, quoi.
Voilà.
Vous avez dit extrême droite, donc droit de réponse.
Oui, mais il n'y a pas de problème.
Ben, l'émission s'arrête pendant les vacances, donc ça pourrait...
C'est bien un parti d'extrême droite. Mais c'est un parti d'extrême droite, la droite d'Hitler.
Ça pourrait... Voilà, deux droits de réponse, je pense. Je pense que la totalité de notre première émission en septembre sera prise par vos droits de réponse. Nous avons consacré deux jours après le Cinaction une émission à la soirée du Cinaction et aux causes de son échec. Vous savez que parmi les causes de l'échec de cette soirée, on retient souvent l'esclandre entre le président d'ACTUP, Christophe Martet, et le ministre de la Culture, Philippe Douste-Blazy. C'était sur toutes les chaînes, c'était en prime time, donc des très jeunes adolescents ou enfants pouvaient être devant leur poste à ce moment-là. Et nous sommes allés demander à une classe de 4e du collège Jules Ferry de Brassac-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme, comment eux lisaient cette scène qui restera un moment de télévision d'anthologie, donc entre le président d'ACTUP et le ministre Douste-Blazy.
Autre histoire, donc, c'est le témoignage d'une maman qui est touchée par le virus.
Comment vous avez pu mentir de cette façon à Clouse Vellet? Comment vous avez pu lui dire
tout le temps d'aller venir et vous êtes...
Comment vous avez pu lui dire qu'en prison ça s'améliorait? Il faut que vous interveniez maintenant. Les pouvoirs publics ne font rien. Il faut que vous interveniez.
Ils encadrent le Douste-Blazy. Donc en fait, ils sont en quelque sorte de contraint, donc il n'avait pas vraiment de chance d'y échapper.
Celui qui vit avec le président d'ACTUP tient M. Douste-Blazy par le dos, enfin il le pousse pour qu'il rentre dans le plateau. Ben, ça veut dire qu'ils l'ont un peu pris de force.
Le ministre, il est là pour répondre aux questions et il faut qu'il vienne sur le plateau pour répondre, ils l'ont pas mis de force.
Il vient de son plein gré selon toi?
Je pense que oui.
Bon, je vais vous répondre.
J'aimerais rajouter quelque chose. C'est dire que dans les prisons aussi, à l'heure actuelle, les personnes malades du sida, on les soigne en les aspergeant d'eau à l'heure actuelle. Donc, c'est quoi les mesures? Quand est-ce qu'elles vont arriver?
Alors, il va vous répondre. Vous doutez que ce n'est pas quand même moi qui ai décidé de cela. J'espère que vous en rendez compte quand même. Bon, d'accord. Pas moi. Bon. Là, voilà. Je voudrais...
Vu qu'ils s'entendent pas du tout... En fait, c'est une sorte de geste agressif. C'est un geste agressif.
Mais de toute façon, c'est nécessaire qu'il soit comme ça. Parce qu'on lui a coupé son micro. Et s'il a quelque chose à dire qui lui tient vraiment à cœur, il vaut mieux qu'il le dise.
Quand même. Bon, d'accord. Pas moi. Bon. Là. Voilà. Je voudrais...
On lui a coupé son micro.
À quoi tu le vois ?
Eh bien, il essaye de parler, mais on n'entend pas.
Et pourquoi on a coupé le micro, à votre avis? Oui.
Pour éviter qu'il interpelle Douste-Blazy. Ils lui ont coupé le micro pour éviter les cafouillages, qu'il y ait trop de disputes.
Mais répondez à la question des personnes malades étrangères, c'est quand même ça. Merde, j'ai pas fait ce t-shirt pour rien.
Donc... Il savait déjà ce qu'il allait dire, donc il avait fait ce t-shirt... exprès pour cette émission.
Je pense que Christophe savait ce qu'il allait dire dans l'ensemble, mais il savait peut-être pas que ça allait dégénérer.
Puisqu'il voulait faire montrer que Douste-Blazy expulsait les malades du sida, il a fait ce t-shirt pour encore plus frapper l'attention des téléspectateurs.
C'est quoi ce pays de merde?
Oui, non, d'abord, il ne faut pas dire des choses comme ça, hein. C'est pas bien.
Quand il dit c'est pas bien de parler comme ça, c'est comme s'il reprenait un enfant. Il prend pas cette discussion au sérieux.
Il s'en fout d'être en colère devant des millions de gens. Il est atteint du sida, donc d'ici là, il sera peut-être mort.
On voit bien que c'est une méthode assez terroriste, avec l'histoire du micro, le langage qu'il emploie. Et puis le ton, c'est de la manière qu'il le dit. Il brusque un peu les gens.
Voilà le regard des ados de classe télé sur le site d'Action. Autre retour sur image. Connaissez-vous Michael Bohn? Il est allemand, c'est un faussaire. Il a vendu un tas de reportages bidons aux chaînes allemandes qui les ont souvent diffusés. Alors on va voir un petit rappel de ces vrais faux. Faux vrai,
on
ne sait plus.
Un petit florilège.
C'est des faux, carrément ouais. Faux d'ailleurs. Alors comment on va les voir? Ça commence par un trafic.
Des faux trafics de drogue avec de la fausse cocaïne.
Alors qu'on n'a jamais vu ça en vrai, enfin, on n'en est jamais arrivé à filmer.
C'est sûr que c'est de la fausse.
On n'a pas
essayé, mais.
C'est apparemment du sucre. Ouais.
Oui, alors voilà. Toutes les images qu'on voit là ont été diffusées par les chaînes allemandes sur plusieurs années.
Donc ça, c'est des faux néo-nazis, des faux. Il y a des faux. chasseur de chats, je crois. Du coup, je crois qu'il était inculpé de violence sur animaux domestiques parce qu'il montrait des chasseurs de chats sauvages. C'est... Alors, à la suite de ce reportage, il a été inculpé. Ça, c'est des faux chasseurs de chats.
Voilà.
Il a été inculpé.
C'est-à-dire que c'était tout un reportage qui est passé à la télé allemande et qui était prétendument un reportage sur les chasseurs de chats. Et donc, tout le monde a marché, quoi. Tout le monde a dit, oh là là, les chasseurs de chats, c'est terrible.
La télé est au courant quand même que c'est du faux.
Alors, justement, il a été inculpé pour escroquerie. Je vais vous expliquer. Il a été inculpé pour escroquerie par la justice allemande. Il est en prison aujourd'hui. Et quand il défend, il dit « J'aurais jamais pu faire ça sans la complicité des chaînes. » Elles étaient bien sûr au courant des secrets de fabrication. Elles sont tellement à la recherche de scoops qu'elles le savaient.
Il n'a pas
tort. Donc, un vaste débat en Allemagne sur les producteurs privés, sur, sur les chaînes privées. La console d'audience n'était pas
concrète. Ça nous rappelle quelque chose, ça, d'ailleurs.
Ça nous rappelle quelque
chose. C'est exactement le même débat que La Preuve par l'image, qui est produite par une chaîne, par une société de production indépendante.
Absolument, absolument. Bon, bref, et tout ça nous promet un joli procès et un joli déballage. Quand, à l'automne en Allemagne ?
À l'automne en Allemagne.
À l'automne en Allemagne.
Autre émission pour terminer. Autre invité, Serge Moati, évoquait ici même Lionel Jospin, qu'il avait suivi caméra au point pendant la campagne présidentielle. Moati avait-il, oui ou non, filmé Jospin en train de prononcer une certaine petite phrase ? Regardez.
Et il y a notamment une scène très forte dont la presse s'était fait les coups, après la défaite, après le résultat du deuxième tour, dans laquelle il dit à ses militants, finalement, j'ai toujours su que je n'y gagnerais pas. Alors cette scène, je crois que vous l'avez filmée.
Non. C'était à la fin de la campagne, ça.
Oui, c'était à la fin de la campagne.
Moi, j'ai pas filmé. Non, j'ai pas filmé. Moi, j'avais arrêté de tourner à ce moment-là. C'était fini, quoi. C'était 15 jours après la fin de la campagne. Il avait réuni son
état-major. Deux, trois jours.
Il avait réuni son état-major, etc. Il a dit cette phrase, étrange. Moi, je l'avais pas filmé, non.
Vous l'avez pas filmé. Mais vous étiez là, non?
J'étais là, parmi les gens qui buvaient un coup.
Mais vous n'avez pas la caméra?
Non, j'avais pas la caméra cette fois-là.
Vous avez eu envie de la voir à cet instant-là?
Non. Non, parce que je trouvais ça. Non, j'avais pas envie. Non. J'avais pas envie parce que, de toute façon, à la fin de ce film, moi, j'étais extrêmement mélancolique. Comme souvent à la fin des films, on avait vécu cette campagne intensément, tout ça, etc. Et non, j'avais pas la caméra. Mais ça a été filmé par 40 caméras, ça. Donc vous l'avez vu, vous?
Non. Enfin, d'après le service de presse du candidat Jospin, vous étiez le seul cinéaste présent, mais alors évidemment, si vous étiez sans caméra.
Moi, je l'ai vu à la télé. Moi, j'étais sans caméra, mais je l'ai vu à la télé.
Non, mais on n'a pas entendu la phrase.
Bon, double trou de mémoire de Serge Moati et de moi-même, puisque effectivement, il avait bien filmé cette scène, et effectivement, comment on le sait? C'est parce que justement, cette scène est passée à la télé. On va voir, c'était France 3.
Moi, en tout cas, sachez-le, c'est pas pour jouer les esprits forts, parce que j'aime pas. Je n'ai pas pensé à aucun moment que cette élection pouvait être gagnée, même dans les derniers jours.
Un parler vrai qui est loin de démobiliser les collaborateurs de Lionel Jospin qui sont déjà entièrement tournés vers demain.
Et alors, s'ils étaient tournés vers demain, Moati, lui, est bien visible, Serge Moati, au milieu de l'image. On le voit là, puis d'ailleurs, on le voit sur un autre plan.
Il y a trop de mémoire.
Deux trous de mémoire.
En tout cas, c'est clair, on ne peut plus du tout nous accuser d'avoir fait élire Jacques Chirac, puisque même Jospin n'y
croyait pas. On reconnaît que ça n'a jamais été envisagé.
Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Une petite question particulière à vous deux qui quittez donc les guignols de l'info. Est-ce qu'il y aura un message particulier, puisque vous auriez été vendredi prochain à l'antenne, vous allez faire un petit sketch particulier pour votre départ ?
Non, l'émission continue.
L'émission continue avec notamment Bruno Gassier.
Avec Bruno, Franck Magnier, voilà.
Mais continue avec la même philosophie, c'est-à-dire continuer de regarder votre téléviseur sur le côté. Enfin, c'est un peu la philosophie de votre émission aussi, quoi.
Et on va faire leur marionnette, je pense.
En chômeur.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. C'était la dernière de la saison pour AS sur Image et nous espérons bien vous retrouver à la rentrée prochaine. Merci, au revoir.
Voilà, c'est terminé. Si vous avez regardé ou écouté cette émission sans être abonné, c'est que nos abonnés vous l'ont offerte. Sans abonné, pas d'arrêt sur image. Alors vous aussi, abonnez-vous.